Bienvenue, bienvenue pour le 13e épisode de Déclencheur, le podcast qui parle photo. Trois segments dans cet épisode, l'édito, qui sera consacré à un regard sur les anciens épisodes de Déclencheur et à la photo de bébé. Le segment principal qui est une interview avec Sacha Dolinaire, le directeur de MyPixMania. Et enfin, vos commentaires et vos réactions dans le troisième segment. Un rappel, si vous êtes intéressé par la commande groupée de Wybal, il ne vous reste que jusqu'à mardi, c'est-à-dire demain, pour vous inscrire. Notez dès à présent l'adresse du site web www.déclencheur.com, c'est là que vous pourrez vous abonner et on supporte différentes méthodes d'abonnement, l'email, iTunes ou l'abonnement RSS. Vous pourrez également poster un commentaire, une réaction ou retrouver tous les liens présentés dans l'épisode. Premier segment, donc l'édito. Le thème de cet édito m'a été suggéré par la question reçue d'un auditeur qui va bientôt être papa. Il m'a écrit pour me dire qu'il appréciait le podcast, ce qui est toujours très gentil, et il a ajouté « Pourquoi ne pas consacrer un épisode à la photographie des nouveau-nés ?» C'est un très bon sujet effectivement, et si je trouve quelqu'un à interviewer, je le couvrirai bien volontiers. En attendant, je voulais lui donner quelques conseils. Et en préparant ma réponse, j'ai réalisé que la plupart des thèmes qui tournent autour de la photo de nouveau-nés ont déjà été couverts dans Déclencheur. Mon principe quand je photographie des tout petits bébés, c'est de ne jamais utiliser le flash. Pour une raison très simple, le flash les fait grimacer, visiblement de déplaisir. Je me dis qu'ils ont déjà subi un choc assez important, je ne voudrais pas rajouter à leur inconfort. Il est parfaitement inutile de m'écrire pour me dire que les nouveau-nés supportent le flash sans problème, etc. Vous n'arriverez pas à me convaincre. Pour deux raisons. Un, il reste que tous les nouveau-nés grimacent quand on les photographie au flash. Et deuxièmement, il est si simple de se passer du flash que je ne vois vraiment pas pourquoi je devrais leur imposer cet inconfort. Et j'ajouterais même une troisième raison, on photographie beaucoup, beaucoup les jeunes enfants, c'est normal. Moi je crois que dans le premier mois de la naissance de ma fille, j'ai fait plusieurs milliers de photos sur un mois. Et donc je ne peux pas m'imaginer lui avoir infligé plusieurs milliers de coups de flash. Donc à mes yeux, la photographie de tout petits enfants, c'est essentiellement du portrait réalisé en basse lumière. Et c'est absolument pas un problème parce qu'à cet âge-là, il ne bouge pas. Or, la photographie en basse lumière, on en a déjà parlé plusieurs fois dans Déclencheur. D'abord dans l'épisode 4, consacré au trépied. Dans l'épisode 8, quand on parlait d'un objectif lumineux qui offre des possibilités supplémentaires. Et je profite pour dire que le 50 mm est une focale qui est particulièrement gracieuse pour les jeunes enfants. Donc pour les jeunes parents, équipez-vous d'un trépied et d'un objectif lumineux. Bien entendu, la photographie en RAW est conseillé pour beaucoup de raisons, vous êtes en faible luminosité, la balance des blancs risque d'être très difficile, et les bébés ont souvent des couleurs très rouges qui ne sont pas très gracieuses, ils sont un peu rougeaux. Jouer sur la saturation, jouer sur les différents paramètres colorimétriques peut permettre de rendre une image plus flatteuse. Et tous ces aspects-là, on les a traités dans l'épisode 11. Une solution simple pour les photographier, c'est de profiter de la lumière du jour. Il y a généralement de grandes fenêtres dans les maternités. On place le landau près de la fenêtre et on a tout l'éclairage nécessaire pour photographier l'enfant. Évidemment, comme on a un éclairage latéral d'un seul côté, on risque d'avoir des ombres assez marquées qui vont être disgracieuses. Et donc l'utilisation d'un réflecteur qu'on avait abordé dans l'épisode 7 est vraiment conseillée. Une petite mise en garde, les draps blancs font un excellent réflecteur, mais bizarrement les infirmières n'aiment pas qu'on s'en serve. Par contre, pour les photos prises le soir, là évidemment on est un éclairage artificiel et donc une bonne maîtrise de la balance des blancs, l'épisode 1 s'impose. Ces photos de naissance sont parmi celles qui sont les plus émotionnellement chargées et donc je ne serais absolument pas complet si je ne parlais pas de la conservation, de la préservation de ces photos. Ce sont des thèmes qu'on a abordés dans l'épisode 9 et dans l'épisode 2. Donc vous le voyez, et j'avoue que ça m'a surpris tant en préparant la réponse qu'encore maintenant en préparant cet édito, Déclencheur a déjà abordé beaucoup de thèmes utiles. Quand on écoute les épisodes en élargissant un petit peu le contexte, en reprenant une technique et en essayant d'appliquer dans un autre contexte, on a vraiment déjà couvert beaucoup, beaucoup de chemin. Deux derniers conseils. Le premier est de façon générale pour toutes les photographies qui vont être prises sous le coup d'une émotion, un mariage, un baptême, communion, une naissance, etc. Connaissez votre matériel. Soyez sûr d'avoir eu l'occasion d'utiliser le matériel quelques semaines, quelques mois à l'avance pour bien le connaître, pour savoir comment il va réagir et pour éviter de vous laisser piéger. C'est pas le moment, au milieu de la naissance, d'aller feuilleter le mode d'emploi pour savoir comment on passe en mode RAW ou comment on règle tel ou tel aspect de compensation d'exposition. Deuxième conseil qui est vraiment spécifique à la naissance, une naissance, c'est un moment absolument magique, donc ne vous cachez pas derrière l'appareil photo, ne faites pas comme ces touristes japonais qui visitent un pays derrière leur caméra, profitez de l'événement et faites des photos en plus. Un édito bonus parce que Vincent Luc a eu la gentillesse de m'adresser une copie de son livre « Maîtriser le Nikon D200 ». Je dois dire que j'étais un peu sceptique en recevant ce livre. En effet, je trouve qu'il n'y a pas tellement de manières différentes d'expliquer le réglage des paramètres de l'appareil, par exemple le choix du mode d'exposition. Et donc, j'ai toujours un peu de doute sur un livre qui prétend l'expliquer plus clairement que le manuel. Alors Vincent Luc a joué le jeu d'une façon très intelligente. Ce qu'il a fait, c'est combiner une introduction à la photographie avec le manuel de l'appareil. Et le résultat, c'est que sur la manipulation de l'appareil, donc le choix du réglage de l'exposition, bah effectivement, vous n'avez pas plus d'informations que dans le manuel. Mais par contre, il y ajoute toute une explication sur pourquoi choisir tel mode et quand choisir tel mode. Et donc le résultat, c'est que vous avez un véritable petit cours de photographie adapté à votre appareil. J'ai cru comprendre qu'il avait en fait toute une collection couvrant les appareils les plus populaires et je dois dire que sur base de ce que j'en ai lu, ça me paraît être une excellente collection pour démarrer en photographie numérique. Deuxième segment donc, Sacha Delinère qui va nous parler des labos en ligne. Depuis le début de Déclencheur, vous m'interrogez régulièrement sur le tirage photo et en particulier sur l'utilisation des labos en ligne. Je crois que je vous ai déniché un vrai expert en la matière. Sacha Delinère est en effet le directeur de MyPixMania, le laboratoire photo leader au niveau européen. C'est une interview que j'ai beaucoup de plaisir à vous présenter aujourd'hui parce qu'elle a été à la fois très difficile et très facile à organiser. Difficile parce que comme vous me posiez ces questions, j'ai évidemment contacté plusieurs laboratoires pour essayer d'obtenir une interview et la plupart du temps, ils ne m'ont même pas répondu. Et puis facile parce que j'ai rencontré l'équipe de MyPixMania par hasard à l'occasion de la remise des podcasts d'or et ils ont tout de suite été enthousiastes pour le projet. Vous allez l'entendre, Sacha est bien évidemment fier de ses produits, mais il est également très franc et très ouvert par rapport aux attentes des photographes amateurs. Pour ma part, j'ai appris énormément en parlant avec lui et en particulier sur cette notion de service. Tous les laboratoires aujourd'hui communiquent sur la notion de service et j'avoue que je n'étais pas arrivé à comprendre ce qu'il voulait dire. Et là enfin, on va voir les explications et je trouve que c'est vraiment intéressant, hein, ça ouvre des voies, des perspectives plaisante pour l'amateur photo. Bonjour, je suis avec Sacha Delinère qui est le directeur de MyPixMania. Ça fait pas mal de temps que vous me posez beaucoup de questions sur les labos en ligne, sur les tirages en ligne et on va trouver toutes les réponses avec un expert. Donc Sacha, tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement que MyPixMania ?
Alors bonjour Benoît, alors MyPixMania c'est un laboratoire photo en ligne. Il y a un petit peu plus de choses derrière ce mot, je pense qu'on va l'aborder après. MyPixMania existe depuis 4 ans. En 4 ans, on a ouvert dans 12 pays. Aujourd'hui, on propose nos services à beaucoup d'Européens. On est d'ailleurs aujourd'hui leader sur ce marché-là, sur le marché européen.
Et c'est bien un labo français.
Au départ, c'est un labo français. La production, on va dire, se passe en France.
Justement, tu l'abordais déjà dans ta présentation. Un labo en ligne, qu'est-ce que ça recouvre exactement ?
Alors, un labo en ligne, c'est deux choses. C'est à la fois un site internet, qui est un site de e-commerce avec des spécificités photo, images, et aussi un laboratoire. En fait, beaucoup plus proche que ce qu'on peut imaginer, d'un laboratoire industriel classique comme il y en avait avant, avec des spécificités bien évidemment dues à l'informatisation, à l'automatisation vraiment de la photo.
Donc quand tu parles proche d'un laboratoire industriel classique, tu veux dire que vous n'utilisez pas le même type de matériel que les mini-labs qu'on retrouve dans son quartier, etc.
Non, nous vraiment, on travaille sur des très gros volumes, et donc on travaille avec des méthodes beaucoup plus proches, tout à fait, des laboratoires industriels. On a des mini-labs, hein, mais comme d'ailleurs certains laboratoires industriels, mais on travaille en complément avec des mini-labs et avec du matériel, je dirais, beaucoup plus lourd, enfin, de l'artillerie beaucoup plus lourde, quoi.
Quand on fait des photos, il y a déjà pas mal de solutions, je vais dire, de tirage. Il y a le mini-lab dont on parlait à l'instant, il y a l'imprimante couleur dont on s'est souvent équipé quand on fait du numérique, il y a le labo en ligne, etc., etc. Où est-ce que tu situes, toi, le labo en ligne dans toute cette offre ?
Tout d'abord, je pense que toutes les offres sont complémentaires. Alors moi, j'ai une bonne métaphore, c'est la pizza. La pizza, tu peux la manger chez toi surgelée, tu peux la commander chez Pizza Hut, tu peux aller la manger dans un bon restaurant, tu peux la faire toi-même, et la même personne peut faire ces différentes choses. Je pense que tous les systèmes aujourd'hui pour tirer ces photos peuvent être complémentaires. Parfois, c'est des personnes différentes qui les utilisent, parfois, ça peut être la même personne. On va dire que l'imprimante à la maison, c'est l'instantanéité. C'est vraiment, je rentre de vacances, à peine posé mes valises, j'ai envie d'avoir mes 2-3 photos de vacances, je peux les avoir tout de suite. En plus, il y a vraiment le côté, on va dire, amusement hein, de faire soi-même, côté bricoleur, on va dire. Donc ça, faut aussi aimer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pas la grosse majorité des photos qui sont tirées comme ça. Il y a les kiosques dans les centres commerciaux, dans la grande distribution, les kiosques photos. Ben là, c'est pareil, il y a le principe aussi d'instantanéité, mais pour des petites séries. On a envie de 15 photos de la soirée qu'on a organisée la veille. On va les tirer sur un kiosque, c'est assez rapide. On est toujours dans des systèmes d'imprimantes. Là, on n'est pas dans des processus de développement argentique de photos. Donc la qualité aujourd'hui est encore un petit peu en dessous, bien évidemment. Puis après, bon bah il y a toujours le magasin traditionnel. On aime, on a le contact vraiment humain, aller dans un magasin, rencontrer des gens. Et puis il y a ce qui est en train d'être vraiment la lame de fond sur le marché de la photo, c'est le tirage photo en ligne. Là, on y cherche en général le prix, en général les volumes. Les gens viennent avec toutes leurs photos. Ils sont partis 3 semaines en vacances à l'autre bout du monde. Et là, ils ont toutes leurs photos. Ils ont 300, 400, 500 photos à développer. Et donc, c'est là le meilleur système. Et en plus, de plus en plus, les gens ont compris que les laboratoires en ligne peuvent donner, en fait, en termes de qualité, la meilleure qualité. Le chemin de la photo permet vraiment d'améliorer et d'en contrôler au maximum la qualité. Il y a beaucoup de gens qui viennent aussi maintenant sur Internet pour la qualité de l'image.
Tu peux nous expliquer un peu le chemin que va suivre une photo? Donc on va sur le site, on envoie sa photo et puis qu'est-ce qui lui arrive?
Alors bon, la photo, elle passe dans un système d'upload. Elle va arriver chez nous par nos serveurs. Elle arrive dans nos bases de données. Tout d'abord, elle va être stockée. On stocke, nous, toutes les photos. C'est notre principe un petit peu, c'est stocker les photos de nos clients à vie. Après ça, quand le client va commander par exemple un tirage ou un objet, la photo en amont, avant d'être imprimée, va subir un certain nombre de corrections. Alors elle va subir des corrections point de vue colorimétrie, elle va être soit rehaussée, soit on va lui donner plus ou moins de densité pour vraiment la faire correspondre au maximum à un bon standard de qualité. Tout ça se fait automatiquement, on a différents outils, différents passages, tout ça se fait automatiquement de façon complètement numérique. Donc c'est des outils qu'on a développés en interne et avec nos partenaires matériel photo, des gens par exemple comme Fuji pour en citer un qui est un nom connu, avec qui on a travaillé donc vraiment sur la qualité de l'image, en amont, passage en chimie. Après effectivement, on a donc tout aspect chimique, le tirage est envoyé vers une machine, elle est exposée, puis elle est développée. Elle passe dans différents bains de chimie. Là, c'est pareil. Nous, ça fait 35 ans qu'on est laboratoire photo. Donc, on a une vraie expérience argentique. La maison mère de Pixmania, Photovista, avait différentes activités en photo argentique, photo scolaire, en photo de maternité, en labo pro. Après ça, une fois que la photo donc, sort, là, il y a tout un processus de contrôle de qualité qui est mis en place, qui est une équipe qualité, qui travaille au laboratoire. Donc, on voit passer les photos sur une table de vérif. On peut stopper celles qui ont des problèmes, les corrections n'ont pas été suffisantes, n'ont pas été correctes. On arrive à intercepter des photos qui peuvent avoir des défauts. Et bien évidemment, donc ce que je disais, on travaille en permanence avec des experts aussi extérieurs qui viennent de chez nos partenaires comme Fuji. Voilà. À l'expédition, on va encore avoir une vérification. Les photos sont mises dans un emballage en fait qui protège très bien les photos, donc c'est une boîte en carton. Donc après la photo est expédiée.
Tu parlais tout à l'heure des traitements que vous appliquez. La plupart de mes auditeurs travaillent avec, et moi c'est le cas, on retouche les images sur Photoshop, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de conflit entre les deux traitements?
Ça peut arriver. Il faut être tout à fait franc et transparent. Ça peut arriver. C'est déjà arrivé en tout cas. Alors nous, ce qu'on propose et ce qu'on conseille, quand un photographe vraiment averti a bien retouché ses images, a vraiment optimisé lui-même la qualité de son image, ce qu'on propose, c'est de désactiver le mode compensation. C'est désactivable en ligne facilement et on le propose parce qu'on a déjà eu le cas de clients qui avaient fait des belles retouches eux-mêmes et qui n'étaient pas contents derrière de notre compensation automatique qui avait amoindri ou abîmé leur effet, quoi. Dans ce cas-là, le traitement est complètement neutre, on prend le fichier vraiment tel quel.
Dans la presse photo, on lit énormément que les gens ne tirent plus leurs photos. Tu en penses quoi, toi?
Moi, je pense que c'est faux. Je t'inviterais à voir le débit de photos au laboratoire. Dernièrement, j'ai fait pas mal de journées à plus d'un million de tirages par jour. Je pense qu'au global, c'est totalement faux. Les gens font beaucoup plus de prises de vue du fait de l'appareil photo numérique. On ne réfléchit pas avant de shooter, puisque de toute façon, il n'y a aucun coût. On peut l'effacer derrière. Les cartes mémoire sont de plus en plus importantes. Les espaces de stockage aussi. Il y a des sites, par exemple, comme MyPixmania, qui proposent de stockage gratuit des images. Donc, c'est plus un problème de shooter. Et effectivement, les photos ne sont pas toutes tirées. mais une proportion suffisante pour qu'on reste à des niveaux de tirage photo qui sont très importants. C'est sûr qu'il y a eu, une période de, un petit peu de creux, parce que les gens ont mis du temps à s'habituer. Enfin, on change pas comme ça d'habitude, hein. On était il y a 10 ans sur des appareils photo argentiques, c'était différent. La révolution numérique a fait que pendant un petit moment, il y a eu un creux, mais les gens tirent toujours la photo. On a toujours envie d'avoir ces images sur papier photo ou d'ailleurs sur d'autres supports.
Les objets photo, ça vient d'où, c'est quoi ?
Alors d'abord, je pense que le numérique a ouvert la photo à un public beaucoup plus large. D'abord. Donc effectivement, toi qui fais des photos depuis 20 ans, tu n'étais pas forcément habitué à ça. Mais il y a des gens qui ont commencé la photo avec la photo numérique et qui donc directement ont testé ces nouveaux produits. Ça vient des US, c'est du au départ du kitsch. On met ses photos un peu sur tout, sur des mugs, sur des tapis de souris, etc. C'est assez kitsch comme concept. En France, qui est un pays qui, je pense, aime pas trop le kitsch, ça a mis du temps à émerger. Moi, je voyais, il y a déjà quelques années, en me baladant dans les différentes capitales européennes, je voyais déjà dans les magasins photos des gens qui proposaient des photos sur des t-shirts, par exemple, sur des casquettes, des choses assez simples, mais assez sympas, en fin de compte. En France, il n'y en avait pas. Donc, il y avait des magasins photo, étaient un peu arc-boutés sur des principes assez anciens, enfin voilà, sur la photo. La photo, c'est sur du papier photo, point barre. Et en fait, bah, aujourd'hui, d'abord, ils s'y mettent. Et c'est surtout Internet et la photo numérique qui ont ouvert la voie. La tendance, c'est qu'il y a de plus en plus de produits différents. Nous, par exemple, on a aujourd'hui 250 types de produits personnalisés différents. Bon, bien sûr, il y a toujours les classiques qui marchent très bien. C'est les mugs, c'est les livres photos.
Les livres photos, tu en parlais à l'instant. En termes de qualité, ça donne quoi ? Quand on va sur les forums, quand on a des retours, c'est tiens, c'est pas comme le reste des photos.
Alors, c'est sûr que c'est pas la même chose. Ça tend à le devenir de plus en plus, pour deux raisons.
Tu peux peut-être d'abord nous expliquer pourquoi c'est pas la même chose ?
Il y a une différence entre le procédé argentique, révélation, bain de chimie, et un procédé jetant. Alors déjà, un papier qui n'est pas le même, enfin, il y a des différences. Hein, différences.
C'est pas des photos qu'on relie, en fait, c'est produit avec des procédés d'impression.
Voilà, c'est l'impression, la plupart du temps, c'est vraiment l'impression jetant. On est sur une autre technologie qui progresse, qui rend de plus en plus une bonne image, une bonne qualité photo, entre guillemets. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que, par exemple, chez nous, on s'évertue vraiment, on passe du temps à essayer de faire correspondre de plus en plus les deux.
Qu'est-ce qui plaît dans le livre ?
Je pense qu'il y a un peu de tout. Il y a effectivement le fait de pouvoir jouer avec, de pouvoir rajouter son texte, de pouvoir superposer des photos, mettre plusieurs photos sur une page, composer des pages de façon complètement différente. Il y a cet aspect-là.
Ça remplace un peu l'album photo quelque part.
Voilà. Mais il y a aussi l'aspect, bien évidemment, ben on fait ça d'un coup, quoi. C'est pas on commande ses photos et après on va faire son album photo. C'est comme un jeu, on va sortir son album photo directement.
Donc on le fait alors que les photos, on a peut-être tendance à se dire je les mettrai plus tard dans l'album et
exactement.
De pas le faire. D'accord.
Elle reste souvent dans la boîte à chaussures. Et ensuite, bon, il y a un côté aussi qui paraît pas forcément évident mais qui est essentiel, c'est que les gens, ils font un livre. Et c'est au-delà de l'album, ils font un livre. C'est leur propre livre. Là, c'est aussi l'attrait de la micro-édition, de la micro-imprimerie. On fait son propre livre, on crée son livre avec ses textes et ses photos. Ça, c'est une satisfaction, je pense, assez importante pour le client.
Est-ce que tu as une anecdote sur ces produits, un usage amusant ou différent ?
Oui, alors, bah, par exemple, j'ai deux trucs assez originaux, on va dire. Par exemple, sur les livres photos, j'ai régulièrement des entreprises, alors dont une en particulière qui est dans la publicité. Malheureusement, je ne peux pas citer le nom. En fait, ils ont essayé comme ça, au départ, de faire leur présentation à leurs clients sur des livres photos. Et depuis, régulièrement, on voit passer toutes leurs présentations, toutes leurs campagnes. À chaque fois qu'ils ont une présentation à faire des clients, ils se servent de nos livres photos pour faire leur présentation. Ils font des books, ils font des recommandations. Au lieu d'imprimer ça sur un...
Oui, je comprends.
Voilà, avec un petit Y-Euro ou un truc comme ça, ils font ça vraiment sur un livre. C'est beaucoup plus classe et leur client, sûrement, est plus impressionné quand il voit ça.
Et la deuxième ?
La deuxième, j'en ai une assez marrante. C'est sur les produits en verre. On vend des petits blocs de verre, en fait, avec une photo gravée à l'intérieur. On a un curé espagnol pour sa paroisse régulièrement. Alors, il doit peut-être les revendre derrière. Il fait une espèce de petit produit personnalisé, en fait. Il tire à chaque fois une centaine d'exemplaires avec des représentations religieuses et des petits textes à l'intérieur. Voilà. C'est assez drôle que ça soit l'église qui nous commande des produits, quoi.
C'est amusant, effectivement. je crois qu'on a fait un peu le tour sur l'usage du labo, etc. Moi, je visite pas mal les sites photos américains, et les Américains ont de plus en plus profilent, en fait, les labos, et on trouve les profils couleurs des labos, justement, dans cette optique où on retouche sur Photoshop, on prépare ses photos, etc. C'est quelque chose qu'on voit pas du tout en France. Est-ce que c'est un phénomène que tu vois naissant, ou est-ce que tu crois que ça va pas être importé?
Alors, faut savoir que, globalement, sur le tirage photo en ligne, les Américains ont encore un petit peu d'avance sur les Européens. Pour ma part, je pense que c'est une très bonne idée d'avoir fait ça. Je pense que ça va venir, en tout cas dans les sites de tirage photo qui maîtrisent de A à Z leur production. Je pense qu'on a intérêt à le faire, en tout cas pour certains clients justement qui retouchent leurs photos, mais ils ont besoin d'avoir cette information.
Donc c'est dans la continuité de ce que tu disais tout à l'heure, en décochant les options, on pourrait imaginer des options encore plus experts.
Pour nous, ça fait partie des services. On a une nouvelle version là, du site qui va sortir avec énormément de services. Pas tout va sortir d'un coup, ça va sortir un petit peu au fur et à mesure, on va laisser un peu de suspense. Il va y avoir des services qui s'adressent au très grand public, il va y aussi avoir des services qui vont s'adresser un petit peu plus à un public expert.
Et alors la deuxième question, qui est peut-être une des questions que j'ai reçues le plus, c'est « et le noir et blanc ?» Parce que tous les photographes qui font du noir et blanc, avant ils tiraient chez eux, plus en plus ils ont tendance maintenant à scanner, à passer sous Photoshop, et ils sont bien embêtés pour faire leur tirage.
Alors, nous, au jour d'aujourd'hui, on va dire que on fait pas de noir et blanc, enfin on fait du faux noir et blanc, on fait du noir et blanc à partir de couleurs.
Oui, mais souvent il y a une déviance.
Tout à fait, tout à fait. On est tout à fait d'accord. La qualité des vrais amateurs de noir et blanc n'est pas du tout au rendez-vous. Ça fait partie aussi des diversifications. Pour nous, on voit un petit peu ça comme les objets personnalisés. En fait, les objets personnalisés, on fonctionne sous forme d'atelier. On a la partie dans notre laboratoire qui est très industrielle. Dans la partie fabrication, c'est le tirage photo de masse. Je te disais, aujourd'hui, on fait plus d'un million de photos par jour. Ça va de façon croissante, très très rapide. À côté de ça, on a aussi des ateliers de fabrication. Je te parlais de 250 produits personnalisés. Et là, on s'en relève pour certains produits beaucoup plus de l'artisanat. Par exemple, quand je parle de montres, on a des horlogers qui fabriquent vraiment la montre à partir d'une photo qu'on met à l'intérieur. La montre est complètement montée, fabriquée.
Et tu verrais le noir et blanc éventuellement traité de la même façon.
Tout à fait. Pour nous, c'est exactement la même chose. C'est une demande massive. On n'aura pas de millions de photos par jour ou des choses comme ça. Par contre, c'est un produit plus de luxe qui relève aujourd'hui plus du laboratoire pro. Il y en a encore quelques-uns qui subsistent, mais ils ont eu quand même pas mal de problèmes ces 10 dernières années. À nous, laboratoire online, de prendre le relais et de proposer ces services premium, on va dire, forcément qui seront un petit peu plus chers, mais aussi qui répondent à des vraies demandes amateurs avertis. Moi, ce que je regarde, c'est les consommateurs. Ce qu'il y a, c'est qu'au final, ils ne changent pas beaucoup. On leur propose des choses pour leur simplifier la vie. On leur propose des choses marrantes, des nouveaux produits. Donc forcément, ils y vont. Mais ce qu'ils aiment et ce qu'ils ont toujours aimé, ils sont toujours tournés vers les choses qu'ils ont toujours aimées. Donc il y aura toujours des demandes de noir et blanc. Et à partir de là, il faudra toujours y répondre avec des produits de qualité. Et pour l'industrie, c'est une très bonne occasion de vendre des produits, j'irai un peu plus de luxe. Et c'est très intéressant.
Ok. Et alors, pour conclure un petit peu, on a beaucoup parlé de ce que vous faites aujourd'hui. Quel est pour toi l'avenir des sites de tirage photo?
Pour moi, l'avenir, c'est une diversification, aussi bien au niveau des supports qu'au niveau des services. Je m'explique, je pense que la photo, c'est bien. La vidéo, en plus, ou encore d'autres médias, ça sera encore mieux. Je pense qu'il y a de plus en plus de demandes de gens qui ont des appareils photo numériques, qui vont partir en vacances et qui vont faire 150 photos et qui vont faire 5 vidéos ou 6 vidéos à côté. Ils ont besoin d'abord de les stocker quelque part, de pouvoir les visionner, de pouvoir les partager, de pouvoir les retoucher, de pouvoir les monter, de pouvoir faire un certain nombre de choses avec. Ça, c'est quelque chose sur lequel nous, on travaille et qu'on va très prochainement proposer à nos clients. Et il y a plein d'autres choses. Il y a des clients qui sont demandeurs aussi de photos qui ne sont pas les leurs. Il y a des clients qui sont, comme moi, on va dire, des photographes vraiment amateurs, qui font des photos qui n'ont d'intérêt que personnel, on va dire, et qui, par exemple, ont besoin pour décorer leur maison, leur bureau, de très belles photos. Et donc, nous, ce qu'on propose, et ça fait déjà quelques mois qu'on propose, on est en train vraiment de travailler dessus pour que l'offre soit vraiment très large, c'est une photothèque d'images professionnelles, faites par des photographes plus ou moins connus, mais tous professionnels ou amateurs très avertis, pour faire des choses de très grande qualité, avoir des très belles photos de paysages, de monuments, d'animaux, ou des photos, carrément des photos de sportifs, des affiches de films, toutes sortes de choses. C'est des exemples de services. Et pareil, le support, on doit toujours travailler sur le support pour proposer des nouveaux produits, des nouveaux supports, des nouvelles matières sur lesquelles aujourd'hui on grave dans le verre, on grave sur le métal, on imprime sur de la céramique, sur du papier, sur du plastique, sur du bois. Enfin, il faut, il faut innover. Je pense que c'est que, en tout cas, une grosse partie des clients attendent, c'est vraiment de pouvoir avoir leurs photos un petit peu partout, sur différents supports.
Super. Bah écoute, merci beaucoup pour tout le temps que tu nous as consacré.
Merci à toi. C'était intéressant. Je pense que c'est toujours bien de pouvoir correspondre un petit peu comme ça, de façon directe ou indirecte, avec des amateurs et des gens qui aiment vraiment la photo.
Merci à Sacha d'avoir pris sur son emploi du temps que je sais très chargé pour nous parler des labos en ligne. Troisième segment donc, vos commentaires et vos réactions. Pour laisser un commentaire, une suggestion ou un message d'encouragement, rendez-vous sur le site www.déclencheur.com. Vous pouvez laisser un message texte, vous pouvez également laisser un message audio. On a beaucoup de choses à couvrir dans ce segment commentaires. D'abord la commande des Y-Ball. Vous avez été vraiment très nombreux à être intéressés, beaucoup plus que ce que je ne le pensais au début. Et vous avez également été nombreux à joindre un petit mot de remerciement à la commande, ce qui montre, et ça me fait plaisir, qu'effectivement, cette idée de commande groupée, c'était une bonne idée. En finale, au vu le nombre de commandes, je ferai faire un petit bénéfice dans l'opération. Et il me servira à payer en tout ou en partie un enregistreur numérique portable pour vous offrir des interviews plus intéressantes encore. Si vous êtes intéressé à participer à la commande groupée, ne perdez vraiment pas de temps parce qu'il faut vous inscrire avant mardi. Si vous avez commandé mais que vous n'avez pas encore réglé votre commande, là aussi il est temps d'agir. Depuis le dernier épisode, différents messages d'encouragement reçus de Xavier, Olive, FFS, Dédalus, Magali, Talos, Mathieu. Merci à vous tous. Vous avez également été plusieurs suite au dernier épisode à m'écrire pour me dire que vous aviez ajouté un lien avec ou sans la bannière sur votre site ou sur votre blog. Merci à vous. Je signale que Sam nous a préparé une nouvelle bannière. Sur le dernier épisode, en réaction à la commande groupée des Y-Ball, Hudson s'interroge sur l'utilisation d'une charte comme le Y-Ball pour des photos de monuments, par exemple la Tour Eiffel. Il me dit, la nuit, la charte ne serait pas éclairée par la même source lumineuse que mon sujet. À moins évidemment d'accrocher la carte sur la Tour Eiffel, mais alors il me faudra un sacré zoom. Bon, il y a deux éléments de réponse. Sur ce type de sujet, et particulièrement la nuit, il est rarement indispensable d'avoir une balance des blancs parfaitement correcte et mesurée. Faut oublier que la balance des blancs mesurée, c'est un point de départ, et on peut s'en éloigner pour des raisons artistiques. Une partie du charme de ces photos, une partie de l'ambiance qu'on veut restituer dans ces photos, provient justement des couleurs assez chaudes de l'éclairage. Et donc il ne me paraît pas indispensable de faire une mesure précise, mais au contraire, on va plutôt tenter de conserver un petit peu de la chaleur de l'éclairage de départ et donc faire en fait une balance des blancs plus créative. Et dans ce cas-là, une mesure n'est pas vraiment indispensable. Je vous renvoie d'ailleurs à l'épisode photo de nuit où Nicolas parle de l'utilisation de la balance des blancs pour les photos de nuit. Notez que Mathieu a posté un commentaire, réponse allant dans le même sens. Ok, mais il reste l'hypothèse où vous voulez, pour d'autres raisons, la mesure correcte. Eh bien, c'est possible, même sans avoir un super télé. Il suffit en effet de faire ses photos et puis de s'approcher de la Tour Eiffel et de refotographier la charte au pied de la Tour Eiffel sous l'éclairage du lieu. Il n'est absolument pas nécessaire de photographier la charte sous le même angle que la photo principale, ni même nécessairement à la même heure. Du moment que l'éclairage est resté inchangé ou est suffisamment proche pour que la petite différence de mesure ne soit pas importante, on peut faire sa photo. Donc il est tout à fait raisonnable de profiter d'un passage au pied de la Tour Eiffel pour mesurer la balance des blancs et quelques jours plus tard, faire les photos prises de loin. La mesure qu'on a prise reste tout à fait valable parce qu'elle est sous l'éclairage de la Tour Eiffel même. Pour prendre un exemple plus concret, il m'arrive de revenir après plusieurs heures, voire dans certains cas plusieurs jours, dans un local sous lumière artificielle et de faire ma mesure à ce moment-là. De toute façon, l'éclairage artificiel n'a pas changé. Et donc j'ai toujours une mesure fiable. On n'est absolument pas obligé de prendre la mesure en même temps que la prise de vue ou sous le même angle que la prise de vue. Sur un épisode plus ancien mais en restant dans le sujet du RAW, Cédric a joué au jeu de produire son rendu à partir de la photo exemple que j'avais distribuée pour l'épisode Caméra RAW. Sa version est très très saturée et en finale assez différente de ma version et ça montre bien la flexibilité du format RAW qui vous permet d'avoir des interprétations différentes à partir d'une image. Quant au mini sur la résolution, il a vraiment suscité un débat. Avec des réactions de Francis, Mathieu, Katsura, Alexandre Bay, Papillon 41, Jean-Christophe, Chris Fer, Cyril Marcouillou, Simtris et Maxime Grislin. Je manque de temps pour vous résumer tous les arguments, mais dans l'ensemble, si j'ai bien compris, vous êtes plutôt d'accord avec le thème essentiel du mini. C'est-à-dire que, pour la plupart des photos, la résolution n'est vraiment plus une question et les fabricants et les vendeurs exagèrent en continuant à communiquer sur ce sujet. D'autres éléments sont beaucoup plus importants pour la qualité de nos photos. Évidemment, ce type de mythe, c'est nous qui le perpétuons. Donc je vous invite, la prochaine fois qu'on vous montre un nouvel appareil, à ne pas poser la question « Tiens, mais quelle est la résolution ?» mais à venir avec une question sur les autres aspects de la photographie, comme par exemple « Quelle est l'ouverture maximale de cet objectif ?» Enfin, sur l'épisode présentation et préservation des portraits jets d'encre, le philo pointe sur le logiciel Memory Miner qui permet de classer ces photos dans une base historique et géographique. Il me reste à vous remercier de votre écoute. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur le site www.déclencheur.com. L'abonnement est complètement gratuit. S'abonner à un podcast, ça signifie que vous recevrez, vous serez mis au courant de la mise à disposition des nouveaux épisodes automatiquement. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Toutes les infos pour ce faire sont sur le site. Et le prochain épisode sera encore une interview consacrée cette fois à un autre thème populaire, la gestion de la couleur. À bientôt !